vous invite à chercher dans votre Bible le livre de 2 Samuel. Et on va faire la lecture dans les chapitres 21. Les chapitres 21, 22, 23, 24, la fin du livre de 2 Samuel. C'est la fin du règne de David, c'est la fin du livre. C'est aussi comme un supplément, un bonus dans toute la vie et tout le règne de David. On a parcouru tous ces chapitres pendant les semaines et les mois derniers et on touche à la fin. Et les chapitres 21 à 24 donc sont plusieurs récits qui ne sont pas chronologiques. On va trouver des passages qui se sont passés au début du règne, comme celui que l'on voit ce matin. Et a priori, il n'y a pas une grande unité quand on y regarde au premier coup d'œil. Mais ces derniers quatre chapitres du livre ont un thème commun. C'est l'idée ici de développer un peu les problèmes, la gamme des problèmes auxquels David a dû faire face pendant son règne. Il décrit ici une famine, il y a aussi la guerre, la peste. Il montre aussi comment Dieu a accordé à David sa direction et puis comment il a accordé aussi des partisans fidèles dans les difficultés qu'il a pu rencontrer, dans les batailles qu'il a dû mener. Et puis il montre aussi comment l'expérience même des vicissitudes de la vie et de la bonté de Dieu ont permis à David de devenir le chantre agréable de l'Éternel, le chanteur, si on peut dire, favori de Dieu, celui qui a écrit tellement de psaumes. Donc il y a six sections dans ces quatre derniers chapitres qui sont rangés d'une manière un peu symétrique, si vous voulez. Il y a, début du chapitre 21, un jugement avec une catastrophe naturelle, c'est une famine qui frappe le peuple. Et puis, chapitre 24, la dernière partie, c'est une peste qui frappe le peuple. Un peu avant, on parle de guerre et des vaillants guerriers de David. Et puis, au milieu, on voit deux psaumes magnifiques. Et l'ensemble nous donne le thème de ces derniers chapitres qui est la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais que l'on regarde ce matin ensemble, la miséricorde de Dieu. C'est ce qui ressort de tous ces épisodes dans le règne de David, la miséricorde de Dieu. C'est aussi ce qui devrait ressortir à la fin de nos vies. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin de vos jours? Qu'est-ce que vous pourrez, quel témoignage rendra votre vie à la fin de vos jours? Oh, puisse-t-il être comme celui de David, un témoignage à la miséricorde, à la bonté de Dieu à votre égard? La miséricorde, c'est la bonté de Dieu manifestée envers ceux qui sont dans la détresse. C'est cela la miséricorde, la bonté de Dieu manifestée envers ceux qui sont dans la détresse. Regardez, on va faire cette lecture maintenant, chapitre 21, versets 1 à 14. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point des enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül. et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ?» Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéat-Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'il avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Ritzpa, fille d'Aja, que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils de Merab, fille de Saül, que Merab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzilaï. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et des os de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tsela, dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Waouh ! Quelle affaire ! Peut-on voir la miséricorde de Dieu là-dedans ? Je vous propose d'abord de voir le besoin de miséricorde. Le verset 1 nous donne le contexte. Il y a une famine qui dure depuis 3 ans. Il semble que cet épisode ait eu lieu au début du règne de David. Et j'ai pensé, après avoir passé 10 ans à fuir David dans les déserts, etc., de fuir Saül dans les déserts, d'être poursuivi par lui sans cesse, finalement il arrive sur le trône, et une fois sur le trône, 3 ans de famine. La vie nous réserve souvent des choses comme ça. Les difficultés, les unes après les autres, s'enchaînent. Et nos cœurs ont bien souvent peu de repos. David comprend qu'il s'agit d'un châtiment de l'Éternel. Et pourquoi ? Mais parce que Dieu avait dit à Israël, « Je vais te conduire dans un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. » Alors, maintenant qu'ils sont dans ce pays, s'il y a une famine, c'est qu'il y a un problème. Et chaque fois que vous trouvez des famines dans le pays d'Israël, tout de suite, ça doit déclencher une sonnette dans votre pensée. Il y a un problème. Dans le Lévitique, au chapitre 26, et au verset 15, il est dit, « Si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. » Verset 18, « Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtirai 7 fois plus par vos péchés, pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas des produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Waouh ! Quand il y a un problème en Israël, c'est qu'Israël a un problème avec son Dieu. Et David, il est le roi, il est le représentant d'Israël, il s'inquiète de la situation, il voit son peuple dépérir, il ne comprend pas pour quelles raisons les choses sont ainsi. Alors il nous est dit au verset 1 que David chercha la face de l'Éternel. Il veut comprendre la raison de ce jugement qui frappait toute la nation. Ça ne signifie pas que toute situation de souffrance, toute difficulté dans nos vies, soit systématiquement un jugement de Dieu, un châtiment sur nos vies. Mais en tout cas, ça devrait toujours être une invitation à chercher la face de Dieu. Vous savez, quand on voit les épreuves et les difficultés comme cela, on commence à les voir avec un autre regard, parce qu'elles nous poussent à chercher Dieu. Elles nous poussent à entrer dans sa présence. En Hébreu, au chapitre 4 et au verset 16, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Magnifique invitation, approchons-nous donc. David, lui, il est allé devant la tente de Dieu, il s'est prosterné devant lui, il a cherché sa face, il a dit « Seigneur, tu nous as fait toi-même venir dans ce pays, un beau pays, mais la famine frappe notre peuple. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Révèle-toi à nos cœurs, apporte-nous la consolation, fais-nous miséricorde. » Et Dieu dit ici en hébreu, on n'a pas besoin d'aller devant la tente de l'Éternel. Venez juste devant lui. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Dieu, il veut faire connaître sa miséricorde afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Oh, c'est merveilleux cette invitation pour venir dans la présence de Dieu. Et David vient, et aussitôt, par révélation divine, David apprend que cette famine était une conséquence du péché commis par Saül lorsqu'il avait tué les Gabaonites. C'est un événement auquel aucun autre passage ne fait allusion. Il a eu lieu pendant que Saül était encore roi, des années auparavant. Et au verset 1, il est dit... C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Il parle de la maison sanguinaire, c'est-à-dire toute la descendance de Saül s'est liée avec Saül pour faire périr les Gabaonites. Les Gabaonites, c'était, c'est ce qui nous est dit au verset 2, ce ne sont pas des Juifs, ce sont des Amoréens, c'était des Cananéens, des habitants de Canaan quand Israël est entré dans le pays. Du temps de Josué. Eux, ils savaient qu'ils allaient être chassés du pays. Alors quand ils ont appris ce que Dieu a fait à Jéricho et à Haï, ils se sont dit, mais Israël va arriver vers nous et ils vont nous massacrer. Alors ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, bon, on va ruser. Ils ont pris leurs ânes, ils ont pris des vieilles outres, ils ont mis un peu de vin là-dedans, ils avaient du pain qu'ils ont fait sécher au soleil pour qu'ils soient durs de chez durs. Et puis, ils ont laissé pousser leur barbe. Et puis, ils ont mis leurs plus vieux habits usés. Et puis, ils sont arrivés vers Israël. Et puis, ils ont dit, oh, on est un pays, on est un peuple lointain. On a entendu parler du Dieu d'Israël. On sait ce qu'il a fait, ce que vous avez fait aux Égyptiens. Et vraiment, on veut être avec vous. Alors Josué a dit, mais on ne va pas massacrer ces gens, ils ne sont même pas de Canaan. On dit, ok, on va faire alliance avec vous. Et dans Josué, au chapitre 9, il nous est raconté cela. Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Je ne suis pas dans le bon chapitre là, pardon. Chapitre 9, verset 15. Josué fit la paix avec eux et il conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Donc, ils prennent la décision, on va me faire un contrat, un pacte de non-agression. On ne vous fera aucun mal. Promis, juré, devant l'Éternel. Par serment, on se lie à vous. Et au verset 16, il est dit, 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Alors, ils ne sont pas contents. Verset 20, Josué tranche l'affaire, il dit, voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront chez nous, au milieu de nous, mais on va les réduire un peu à des tâches, à des corvées pour le temple. Donc ils se sont liés avec eux par un serment, par une alliance qui est faite devant l'Éternel. Ainsi, quand Saül a brisé cette alliance et s'est tourné contre eux pour les faire mourir, même si cette alliance était conclue 400 ans plus tôt, il a commis un grave péché. Un serment solennel contracté au nom de l'Éternel a été violé. L'alliance a été brisée, le serment impliquait toute la nation, aussi le jugement divin a frappé toute la nation par une famine. Maintenant, voilà 3 ans qu'il ne pleut plus, les récoltes sont maigres, la détresse est très grande dans le pays et le peuple a besoin de miséricorde. Peut-être ça ne nous parle pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de faire des pactes comme cela devant l'Éternel, de non-agression, engageant tout notre peuple. Et je pense en particulier à un engagement quand même que l'on fait de temps en temps. À l'alliance du mariage, dans laquelle les chrétiens invoquent le nom de l'Éternel devant des témoins, se promettant fidélité, amour, dans les bons et dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort les sépare ou que Jésus-Christ revienne. C'est solennel. On échange un anneau, une alliance, pour rappeler qu'on a une alliance, qu'on a fait alliance devant l'Éternel. Sans parler de rompre cette alliance par le divorce, ne sommes-nous pas tous coupables? Nous n'avons pas aimé comme nous avions promis d'aimer. Nous n'avons pas protégé, veillé, encouragé comme nous nous étions engagés devant l'Éternel à le faire. Mes amis, le propre du péché, c'est la rupture de l'alliance faite avec Dieu. C'est cela le péché. Il a mis sa loi dans nos cœurs. Et nous savons que lorsque nous la transgressons, nous le savons, nos cœurs, nos pensées, notre conscience nous accusent. Et s'ensuit des conséquences terribles qui viennent assécher notre vie. Nos relations sont gâchées, notre joie se tarit, la paix nous quitte, la peur nous gagne, la culpabilité nous écrase et nous avons besoin de la miséricorde, nous aussi. Nous avons besoin de la miséricorde. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Nous sommes souvent malheureux à cause de cela et nous avons besoin d'être secourus. Je vous propose à présent de voir la base de la miséricorde. Dans notre passage, David prend l'initiative et il se rend vers les Gabaonites et il leur dit, Avec quoi ferai-je expiation ? Étonnant ce mot. Avec quoi ferai-je expiation ? Il sait, l'expiation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, avec quoi est-ce que j'ôterai ce péché ? Avec quoi je pourrais restaurer cette communion à nouveau entre Gabaonite et le peuple d'Israël, entre Israël et son Dieu ? Il y a un problème. Et il y a un problème de justice ici. Et la base de la miséricorde, c'est la justice. La base de la... Souvenez-vous de ça. La base de la miséricorde, c'est la justice. Dieu ne peut pas faire miséricorde sans justice. On voudrait parfois régler les problèmes et mettre tout le monde d'accord. Mais ça n'est pas possible simplement en fermant les yeux. Il y a une pénalité pour le péché. Ici, cette alliance qui a été contractée avec les Gabaonites date de 400 ans. Et ça fait des années déjà que Saül a massacré les Gabaonites. Mais le problème demeure. Le problème demeure. Le temps n'a pas effacé l'offense. Le temps n'altère ni la mémoire de Dieu, ni son sens de la justice. Parfois, on aimerait, bon, allez, avec le temps, ça va passer. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le péché doit être expié pour réconcilier les personnes avec Dieu et les personnes entre elles. Ici, quand ils répondent, les Gabaonites disent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec la maison de Saül. » Non, on ne demande pas de dédommagement financier. On ne peut pas restaurer cette communion avec vous simplement avec de l'argent ou avec de l'or. Pas plus qu'on peut acheter notre pardon vis-à-vis de Dieu. L'or et l'argent ne peuvent remplacer le sang qui a coulé. Ils ne veulent pas non plus se venger ici. Ils disent... Dans le verset 4, ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Il dit, on n'a pas l'intention de prendre les armes et d'aller massacrer quelques enfants d'Israël juste pour apaiser notre colère. Non. Non, ils disent, ils veulent qu'il y ait expiation. Ils veulent que justice soit rendue. Et au verset 5 et 6, ils veulent, et c'est ce qu'ils demandent, ils veulent prendre sept fils ou sept descendants de Saül et les pendre devant l'Éternel. Le chiffre 7, il symbolisait la plénitude. Ça ne correspondait pas au nombre de Gabaonites que Saül avait tués. Il y en avait eu bien plus. Hein. Il dit, il a voulu nous exterminer. Mais, et ils disent ici, on veut les pendre devant l'Éternel. C'est-à-dire, on veut les prendre pour l'Éternel, comme une réparation publique offerte à l'Éternel. Il ne s'agit pas d'un meurtre, mais d'une expiation. Ils veulent faire ça à Gibéa de Saül, c'est-à-dire la ville natale de Saül, pour que toute la maison de Saül sache qu'il s'agit de l'expiation pour satisfaire la justice et mettre fin à la malédiction. Pour détourner la colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas une vendetta, c'est une réparation. Et David accepte, et il va livrer sept descendants de Saül, des fils et des petits-fils. Il va livrer les fils de Ritzpa, que Ritzpa avait enfanté à Saül, Harmonie et Mephibosheth, et puis les cinq fils de Merab, la fille de Saül, donc les petits-fils de Saül. Mais David ne livrera pas Mephibosheth, fils de Jonathan. Voilà, c'est ce qu'il est dit au verset 7. À cause du serment que lui, David, avait fait avec Jonathan, à son ami. Vous comprenez ici, il y a deux Mephibosheth. Hein, c'est comme les Samuel chez les chrétiens. Il y a toujours quelques-uns dans les églises. Ici, des Mephibosheth. Non, pas dans nos églises, hein, Mephibosheth, mais Mephibosheth, Mephibosheth avec lequel que David a épargné, c'est le petit-fils de Saül, c'est le fils de Jonathan. Ici, le Mephibosheth qui va être pendu, c'est le fils direct de Saül, fils de Rizpa et Saül. Le petit-fils, donc Mephibosheth, n'est pas livré à cause du serment. Et j'aime ça. C'est que ici, David, il ne va pas briser un serment qu'il a fait, une alliance qu'il a faite avec Jonathan, pour réparer une autre alliance. Non. Il est fidèle, il reste fidèle à l'alliance qu'il a faite. Et ça, je pense que c'est aussi une autre des bases de la miséricorde de Dieu, sa justice et aussi sa fidélité. Mais, mes amis, pourquoi Dieu punit-il le péché? Pourquoi est-ce que Dieu punit le péché? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas juste comme le gendarme municipal qui m'a arrêté vendredi à Castelginest? Il m'a arrêté parce que j'avais ma fille devant, assise devant. Elle a 9 ans. 9 ans et quelques. Mais il faut avoir 10 ans. Ça, je suis allé vérifier, c'est 10 ans. Le gendarme m'a juste dit, bon, c'est juste un rappel à l'ordre cette fois-ci. Ce gendarme. Donc, je suis pas allé en prison. J'ai même pas eu d'amende. Et vous avez vu, lui, il a dit, c'est 10 ans, ça c'est la loi. Et même si ma fille n'avait que 9 ans, j'ai pas eu à payer d'amende. Je n'ai pas été verbalisé. On pourrait dire, c'est ce que j'ai dit, hein. Merci monsieur l'agent, mais c'est pas juste. Parce que dans ce cas-là, il faut jamais qu'il verbalise des enfants qui sont assis devant. Ou alors, il faudrait qu'il change la loi, qu'il mette 9 ans, et pas 10 ans. Et vous comprenez que là, tout de suite, on touche un problème de justice. Alors, pourquoi est-ce que Dieu doit juger? Pourquoi est-ce que Dieu doit juger le péché? Pourquoi est-ce qu'il doit punir le péché? Certainement, il le fait pour dissuader ceux qui pêchent de continuer. Et puis, ça avertit aussi les autres. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles un bon père de famille doit punir le péché dans sa maison. Mais ce n'est pas la raison principale pour Dieu. La raison principale est que la justice de Dieu exige qu'il punisse le péché. Parce que Dieu veut être glorifié dans l'univers qu'il a créé. Et parce qu'il est Dieu et que Dieu est nécessairement juste, il faut que Dieu punisse le péché. S'il ne punit pas, il perd sa qualité divine. Il ne peut plus être célébré comme il doit l'être dans l'univers. Dieu ne peut pas faire comme l'agent. Dieu, il est tenu par sa justice. Il ne peut pas juste fermer les yeux sur le péché. C'est impossible. Il ne peut pas fermer les yeux sur les fautes, sur aucune faute, aussi petite soit-elle. Sa justice, sa sainteté réclame la punition du péché. Le péché entraîne une pénalité. Et si Dieu veut faire miséricorde, il doit malgré tout exercer sa justice. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 3. Romains 3, verset 23. Essayez de suivre bien ces paroles, c'est des versets tellement importants. Il dit ici, Romains 3, 23, « Car tous ont péché. » Ok, tous ici, ça veut dire tous. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés, c'est-à-dire déclarés justes, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire Christ qui meurt à notre place. Et c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire, c'est-à-dire qui nous rend propice, qui nous réconcilie avec Dieu parce qu'il y a eu expiation. Avec quoi ferais-je l'expiation? Une fois que l'expiation est faite, alors la propitiation peut avoir lieu, d'accord? Le fait d'être à nouveau propice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés auparavant, commis auparavant au temps de sa patience. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que Jésus-Christ, il fallait que Jésus-Christ meure sur la croix parce que les péchés étaient restés impunis jusque-là. Les péchés de tous les croyants avant Christ étaient restés impunis. Pourquoi? Parce que la peine méritait la mort et que simplement la mort d'un parfait pour eux. Et jusque-là, le parfait n'était pas venu. Christ n'était pas mort. La justice de Dieu n'était pas encore satisfaite. Dieu ne pouvait pas juste faire miséricorde. Il dit aussi, verset 26, « Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. » C'est magnifique. En envoyant Christ mourir pour nos péchés, Dieu montre sa justice tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ici, il dit simplement parce que je crois que Jésus-Christ est mort à ma place, qu'il a pris ma peine, alors Dieu peut me justifier. Sa justice a été satisfaite. La pénalité pour le péché, c'est la mort. Et Christ est mort. De ce fait, je n'ai plus besoin de mourir. Et la justice de Dieu peut m'être imputée. La miséricorde de Dieu peut m'être faite parce que sa justice a été satisfaite. Comprenez la chose. C'est cela qui est tellement merveilleux. On voit ici le triomphe de la miséricorde. L'exécution de ces sept hommes a donc lieu à Rizpa, à Gibea. Et Rizpa, c'est la concubine loyale qui vient de perdre ses deux fils, assure la garde auprès des corps, jour et nuit, afin que ni les vautours ni les bêtes sauvages ne les touchent. Verset 10, elle prend elle a pris juste un sac, elle s'est couchée dessus pour veiller là devant ces sept hommes pendus au bois pour que les oiseaux du ciel ne viennent pas s'approcher ou que les bêtes des champs ne viennent pas les dévorer pendant la nuit. Vous savez, dans la pensée ici, c'est que votre cadavre serve de nourriture pour les oiseaux et les animaux, c'était considéré comme particulièrement déshonorant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand David est allé combattre Goliath, il lui a dit « Aujourd'hui, je vais te couper la tête et je donnerai ton corps en pâture aux animaux des champs et aux oiseaux du ciel. » C'était le pire déshonneur, c'était d'être comme cela, que votre dépouille soit livrée. Pendant qu'elle fait ça, la pluie se met à tomber. La pluie se met à tomber, mettant un terme à la famine. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, c'est bon, je suis apaisé. Ma justice a été satisfaite, ma colère est apaisée. Elle se détourne du peuple d'Israël parce que l'expiation a été faite. Le péché a été expié. Quelqu'un a dit, quand la justice est opérée sur la terre, toute vengeance du ciel cesse. Comme ça. David est touché par l'attitude de cette femme. Alors David profite de cette inhumation des condamnés pour rendre au reste de Saül et de Jonathan l'honneur qui leur était dû. Il les fait ensevelir avec tous ses corps, toute cette famille, ensemble, dans le sépulcre familial de Kis, le père de Saül. Et tout est réglé ici. En faisant ça, David, il avait sans doute comme but d'écarter l'impression qu'il aurait fait exécuter ses hommes pour se venger de Saül. Il veut rendre honneur à Saül et à Jonathan, et puis à ses hommes qui sont morts. Mais surtout, il veut montrer que tout est bien maintenant. Sépulcre dans la famille de Saül, tout le monde est réuni. La paix est revenue en Israël, tout est bien. Et cette femme, Rizpa, qui manifeste tellement sa peine et puis son amour pour ses fils pendus au bois, elle dirige nos regards vers une autre femme, voyant elle aussi son fils pendu au bois, par les mains et par les pieds, s'offrant comme victime expiatoire pour détourner la colère de Dieu des hommes sur lui-même. Une épée a transpercé son âme parce que son fils, le seul innocent, le seul juste, le fils éternel de Dieu, se donnait pour apaiser la colère de Dieu envers nous. Les fils de David et petits-fils de Saül ont servi d'expiation pour ce péché. Mais le Fils éternel de Dieu, Jésus-Christ, lui, en s'offrant sur le bois, lui le seul juste, il a fait l'expiation pour tous les péchés, pour le péché du monde, pour toutes nos fautes, lui seul a payé. Je pense que c'est ce qui s'est passé ici dans notre livre, c'est une belle image de ce que, ou un beau commentaire de ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître au chapitre 1 et au verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La miséricorde, le triomphe de la miséricorde. La miséricorde peut être faite parce que Jésus-Christ a livré sa vie en sacrifice pour nous. Il est la victime qui ôte le péché du monde. Nos vies se dessèchent parfois et se tarissent à cause de nos péchés. Nous avons brisé l'alliance que le Seigneur a faite avec nous. Notre texte nous invite à chercher la face de Dieu, à nous placer devant lui, à considérer nos voies pour que l'on puisse obtenir miséricorde, pour qu'on puisse recevoir son pardon, pour qu'on puisse regarder dans la personne de Jésus-Christ. Celui qui ôte nos fautes, celui qui les efface pour toujours. tout au long de notre vie, nous aurons besoin de la miséricorde de Dieu. Tout au long de notre vie, même de chrétiens, nous aurons besoin de son secours, de venir devant lui et de lui demander pardon pour nos fautes. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit que sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Ça veut dire que pour toutes les fautes, pour toutes les fois, pour toute votre vie, vous pouvez venir devant Dieu et obtenir miséricorde. J'ai parlé de cette alliance du mariage. C'est une alliance magnifique. C'est merveilleux. Et le mariage, c'est un révélateur de péché. C'est un révélateur de péché. Vous voulez savoir comment je suis? Demandez à ma femme. Vous voulez savoir si je suis toujours souriant et joyeux? Demandez à ma femme. Demandez à ma femme si je perds jamais patience. Et ça, ce révélateur, c'est une bénédiction. Parce qu'une fois que j'ai compris ce que je suis, une fois que mon péché m'a été révélé dans le mariage, alors je peux venir et trouver miséricorde auprès de Dieu. Je peux venir demander pardon au Seigneur et retrouver une pleine communion avec lui et avec mon épouse et avec ma famille. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas voir quand Dieu jette les projecteurs sur nos cœurs, sur nos vies, et qu'il dévoile nos fautes. Il ne faut pas prendre peur et s'enfuir. Au contraire, il faut venir devant Dieu et reconnaître, « Seigneur, oui, je suis ce gars-là. Ça, c'est mon cœur que tu as mis à nu. Je suis un pécheur et j'ai besoin de miséricorde. Parce que si tu ne me fais pas miséricorde, ma vie va se dessécher. » Mon foyer va se ruiner, ma vie va se détruire, le péché va gangréner ma vie et va ruiner mon existence et mon éternité. Et c'est pour ça que Dieu est un Dieu miséricordieux. Oh. Tout dans les Écritures parle de la miséricorde de Dieu. Un jour, Moïse a dit, « Mais Seigneur, fais-moi voir ta face !» Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre, mais je vais quand même te montrer un aspect de ma personne. Et quand Dieu est passé devant Moïse, Moïse a dit, l'Éternel Dieu grand et miséricordieux. Miséricordieux, c'est la première chose que Moïse a vue. Dieu est grand, il est miséricordieux, il aime faire miséricorde. Le psaume 136, il compte 26 versets, dans lesquels vous trouvez cette phrase, « Car la miséricorde de l'Éternel durera toujours. » Car la miséricorde de l'Éternel durera toujours. Car la miséricorde de l'Éternel durera toujours, durera toujours, durera toujours. Dieu veut dire, « Je fais miséricorde, je prends plaisir à la miséricorde. » Dans notre section là, de 2 Samuel, David, au chapitre 24, il va être pris dans le péché. Et Dieu va envoyer un jugement, encore une fois, une peste. Et David dit au chapitre 24, verset 14, il dit, « Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais ne tombons pas entre les mains des hommes. Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. » Pensez à ce qui peut charger vos cœurs, vos consciences, le péché qui peut avoir affecté votre vie. Et venez, tombez entre les mains de Dieu. Il est un Dieu qui est compatissant, qui est miséricordieux. Il aime faire miséricorde et il peut le faire parfaitement parce qu'il est juste, parce qu'il a donné et son Fils. Parce que les bases de sa justice ont été satisfaites, de sa miséricorde ont été satisfaites. Oui, la miséricorde a pour base la justice de Dieu. Que Dieu nous aide chaque fois que nos vies sont desséchées à venir devant lui. La résurrection du Seigneur Jésus montre, c'est la preuve que la justice de Dieu a été satisfaite, que la miséricorde de Dieu peut se répandre dans notre vie. C'est la preuve. C'est comme quand la pluie est tombée. C'était la preuve que Dieu était apaisé. C'est la fin de la famine. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est la preuve qu'il est prêt à vous faire miséricorde. Prions Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois pour la grandeur de ta bonté à notre égard. Nous sommes des misérables. On est si facilement pris dans le péché, à rompre si facilement nos engagements, nos alliances. Et Seigneur, si tu permets qu'aujourd'hui nos fautes soient révélées devant toi, c'est pour que nous puissions nous approcher de toi et trouver grâce et obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous nos besoins. Et Seigneur, je veux te prier pour chacun qui est ici, qui peut être chargé, que ce soit par les difficultés, par les épreuves de la vie, par le péché, par quoi que ce soit. Et je prie pour que l'invitation à s'approcher d'un Dieu qui est miséricordieux soit entendue et que chacun ici puisse déposer devant toi son fardeau, chercher ta face et placer sa confiance dans le Dieu de toute miséricorde. Merci Seigneur mon Dieu de le faire. Merci pour Christ et qui a satisfait ta justice. Tu peux nous faire miséricorde parce que ta justice est satisfaite. Merci Seigneur mon Dieu pour le triomphe de cette miséricorde. La pluie, la vie peut revenir dans nos cœurs. La joie peut y réapparaître. La paix peut y revenir. La crainte et la peur sont bannies, chassées. La joie est là simplement parce que tu nous fais miséricorde en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.